franceinter.fr.
Bonjour Hélène Jouan.
Bonjour.
L'information de la matinée, c'est la mort de Jean-Michel Lambert, le juge Lambert, celui de l'affaire Grégory, retrouvé mort hier à son domicile. Parcours et portrait dans les journaux.
Plus tard, peut-être, 3 points de suspension. Plus tard, peut-être, c'est le SMS que Jean-Michel Lambert a adressé le 8 juillet dernier au site lesjours.fr. Il était sollicité pour évoquer son parcours personnel alors que l'enquête sur le meurtre du petit Grégory venait d'être relancée. Pour le petit juge, le costume était trop grand. Patricia Touranchot retrace pour les jours le parcours de celui qui fut un protagoniste de cette affaire. Surnommé Bibi Fricotin par l'Est républicain, look d'étudiant attardé, avide de reconnaissance, Patricia Touranchot revient sur les débuts du petit juge dans les Vosges. Premier poste de magistrat, pas vraiment une vocation d'ailleurs, submergé de dossiers, fasciné par le sang, par les autopsies, fasciné surtout par les flashs des photographes et l'intérêt qu'il suscite chez les journalistes chargés de l'enquête, parce que lui, justement, il se serait bien vu dans ce rôle-là. Retour sur de curieuses méthodes de travail, mélange de dilettantisme et d'oreilles complaisamment prêtées à quelques-uns. Il inculpe d'abord Bernard Laroche sur la foi des déclarations de Muriel Boll. Il ne l'interrogera jamais sur le fond. Il le relâche sans le protéger, malgré les mises en garde. Et il est en train de faire un trekking en Algérie quand celui-ci est assassiné par Jean-Marie Villemain. Alors, le juge Lambert change de certitude. C'est Christine Villemain, la coupable, forcément coupable. Il l'inculpe, il l'emprisonne, il est secrètement attiré par elle, voire amoureux, dit Patricia Touranchot. 25 charges sont retenues contre elle, mais une fois son dossier bouclé, le juge Lambert prend une année sabbatique pour écrire « Le petit juge » et devenir une star internationale. Placardisé, il encaissera sans broncher le non-lieu de Christine Villemain en 1993. Il ne fera jamais de mea culpa, ne présentera jamais d'excuses, se présentera toujours comme une victime. Dans les notes du juge Simon qui lui a succédé dans l'enquête et qui viennent d'être révélées, cette phrase « On reste confondu devant les carences, les irrégularités, les fautes ou le désordre intellectuel du juge Lambert », écrit-il. « Je suis en présence de l'erreur judiciaire dans toute son horreur ». Le juge Lambert s'est donné la mort hier, affirment Timothée Boutry et Jean-Michel Décugis dans Le Parisien, sans attendre les conclusions de l'enquête de la police judiciaire. C'est un nouveau drame dans cette affaire maudite. C'est peut-être cruel, sans doute excessif, écrivent-ils. Mais le juge Lambert est devenu le visage de l'échec de cette affaire encore non résolue 32 ans après les faits.
Dans la presse également, Hélène, un cocorico, un souffle fiscal et un mauvais feuilleton.
Jeux olympiques, c'est gagné, s'enthousiasme la dépêche du Midi. JO 2024, Paris, yes, presque gagné à la une du Midi Libre qui tempère donc un tout petit peu. Mais attention, pas question de laisser à Paris le slogan « Ici, c'est Paris », cher au PSG. La Provence fait fi de la localisation principale des futurs Jeux olympiques, et s'exclame à sa une « Marseille a les JO ». Bah oui, Marseille accueillera en effet les épreuves de voile et sûrement des rencontres de foot, explique le quotidien. Paris donc peut-être un petit peu, mais enfin surtout Marseille. Même satisfaction de l'autre côté de l'Atlantique et même du continent américain. Le Los Angeles Daily News se réjouit que les Jeux reviennent à Paris et à Los Angeles. Mais quand les deux villes vont-elles trouver un accord pour savoir qui passera en premier? Se demande tout de même la presse américaine, un peu plus prudente que la nôtre, qui semble vouloir croire, elle, que le pari est déjà gagné pour 2024. Alors dans le Figaro, François-Xavier Bourmont revient lui sur l'aspect politique de ce dossier et raconte comment Emmanuel Macron lie l'obtention des JO à son projet politique. Ça a été tout le sens de son allocution hier à Lausanne devant les membres du CIO. En français, puis en anglais, le président vante une France en résonance avec les valeurs de l'olympisme, respect, tolérance, ouverture, développement durable. Il ne cite jamais Donald Trump, mais le message est clair. Encore plus explicite, signe que la France est prête, eh bien lui, en personne. Le fait même que j'ai été élu, déclare-t-il, manifeste que les Français sont prêts pour un nouveau sursaut. Emmanuel Macron ou la Renaissance française, c'est l'idée, écrit Bourmont, en toute modestie bien sûr.
Un effet de souffle fiscal maintenant.
Oui, c'est celui qu'espère provoquer le Premier ministre en annonçant ce matin dans les Échos 11 milliards de baisses d'impôts pour 2018. 11, c'est mieux que les 7 annoncés samedi et a fortiori encore mieux que l'absence de promesses d'allègement qu'on avait cru entendre dans son discours de politique générale. Le Premier ministre explique que c'est dans le courant de la semaine dernière, avec le Président de la République, que nous avons décidé d'accélérer le rythme afin de maximiser les effets économiques de cette stratégie, dit-il. Il détaille les mesures pour 2018, donc, et promet aussi qu'il n'y aura pas de perte de pouvoir d'achat pour les indépendants et pour les fonctionnaires. Il s'engage sur des mesures de compensation, lesquelles ? Alors ça, on ne sait toujours pas. Mais Cécile Cornudet, toujours dans les échos, révèle qu'un autre homme s'est peut-être bien glissé dans cette décision. Nicolas Sarkozy en personne. Le Figaro avait révélé hier que le couple Macron avait invité à dîner le couple Sarkozy le 5 juillet. Eh bien, Cécile Cornudet affirme qu'au menu, il y avait les impôts. L'ancien président, victime en son temps du bouclier fiscal, aurait beaucoup poussé pour que l'actuel corrige le tir et vite, écrit-elle. Eh bien, c'est fait. Le mauvais feuilleton, enfin. En fait, il y en a plusieurs ce matin dans la presse. D'abord celui d'APB, le logiciel qui laisse 17 000 bacheliers sur le carreau. C'est inadmissible, tonne le Parisien, du jamais vu. Il est urgent, plaide le quotidien, de revoir la procédure. Feuilleton de l'affront des anti-vaccins qui se poursuit, notamment sur les réseaux sociaux, nous raconte Libération ce matin. Il y a une énorme seringue très anxiogène à sa une. Mais Libé affirme qu'il faut stopper cette contagion. Comment a-t-on pu en arriver là, se demande David Carzon. Comment des individualismes ont ainsi pu fissurer la notion de bien collectif jusqu'à voir réapparaître des maladies que l'on croyait éradiquées. C'est l'État qui a laissé s'installer la défiance envers les vaccins, accuse-t-il. Alors nous voici aujourd'hui dans l'obligation de prendre des mesures, rendre donc les vaccins obligatoires, mais sans traiter le mal profond. Il faudra beaucoup, beaucoup de pédagogie pour retrouver de la sérénité dans ce dossier, dit-il. Et puis, on va peut-être terminer par le feuilleton des jours à venir. Marc, Donald Trump sur les Champs-Élysées. Ce sera vendredi à l'invitation du président français. Charlie Hebdo en fait à sa une et ça promet d'être sanglant. Dessin de juin avec les têtes des deux présidents au bout des pics des sans-culottes avec ce slogan « Make 14 juillet great again ».
Enrico Letta, c'était une bonne idée d'inviter Donald Trump, de lui tendre à nouveau la main, après la main tendue déjà il y a quelques semaines à Vladimir Poutine.
Ben oui, je pense que oui. La France joue un rôle au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies dans lequel elle est ensemble avec les États-Unis, avec la Russie. Donc elle doit tenir cette relation spéciale. Je ne vois aucun scandale dans tout ça. En plus, parce que Macron a été très dur avec Trump sur des questions de... la question du climat, le protectionnme. Donc, je pense qu'à la fin...
Avec un succès tourlatif, oui, voilà.
Bon, écoutez, je pense que Trump ne peut que être plié par ses électeurs américains lors des prochaines élections dans 3 ans et demi. Ça, je pense qu'on doit se faire... on doit savoir que ça va continuer comme ça va être très dur. Et il faut... Oh, écoutez, Trump a été une grande chance pour l'Europe. On l'a compris tous. Il nous a aidés à comprendre qu'il faut être unis, ensemble. Quelqu'un me disait, peut-être il faudrait mettre Trump à côté de Schuman, Adenauer...
Quelle provocation
ouais, des Monnet, dents qui vont grincer à Bruxelles, oui.
Oui, il nous a beaucoup aidés à comprendre qu'ensemble, à la fin, c'est mieux. Et qu'une menace extérieure, comme Trump, ou comme ça a été le Brexit, aide à comprendre ce qui nous unit plus de ce qui nous divise.
L'ancien chef du gouvernement italien Enrico Letta est avec nous jusqu'à 9h sur France Inter aujourd'hui, président de l'Institut Jacques Delors. Les questions des auditeurs dans 30 secondes.